Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Lévin Mbwinga.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce matin, chose promise, chose due. Judith Suminwa-Tuluka Matadi, depuis hier mercredi, la première ministre appelle les Congolais à soutenir le Front populaire, car cette terre nous appartient, dit-elle. Ce sont là les premiers mots de la chef du gouvernement à son arrivée à l'aéroport de Chimpi, dans la ville portuaire. La quatrième édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en cours, elle a démarré hier mercredi à Kinshasa. Parmi ses objectifs, réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et de ses partenaires à renforcer la vaccination de routine et la lutte contre la polio. Vous entendrez le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba. L'invité de Radio Kapi est Johan Borstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Il va revenir sur sa quatrième visite effectuée au Congo en cette période marquée par l'amplification des violences dans la partie est de la RDC. En tout cas, ne ratez pas ce rendez-vous, c'est vers la fin de ce journal. Bonjour à tous. Comme annoncé, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a débuté hier mercredi sa mission dans la province du Congo central, se confiant à la presse à l'aéroport de Matadi-Chimpi. La chef du gouvernement a affirmé qu'elle inscrit sa mission dans cette province stratégique de la RDC sous le plan économique, dans la continuité de celle entreprise dans le nord et le sud Kivu avant l'occupation illégale de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la coalition M23 AFC. Pour la première ministre, le contexte particulier que connaît le pays actuellement doit pousser tout Congolais à soutenir le Front populaire, car Mabele Oyo Isaiah Bisso traduisait « Cette terre nous appartient », a-t-elle dit. Suivez-la dans cet extrait proposé par Pele Kipelamondo.
Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investie par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Front populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour Mabele Oyo-Isaiah Bisso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Ça fait partie des messages que j'ai à partager. Congolais, Téléma, pour Mabele Oyo-Isaiah Bisso. Mais si on est au lingui que Mboka n'a pas besoin de l'Iboso, il faut payer Bisso, tous à la sérieux, dans ma camoufle, tous à salé là, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, tous à la patriote, pour tout le monde, Mboka n'a pas besoin.
Je vous signale qu'après Matadi, la première ministre se rendra dans l'ex-district du Bas-Fleuve, mais aussi dans le territoire de Mbanzangungu, où plusieurs activités sont prévues, notamment à l'Université Congo. Concernant toujours la première ministre, sachez qu'avant son voyage pour Matadi, elle a réuni mardi les partenaires techniques et financiers de la RDC, dont la Banque mondiale, le FMI et la BAD. L'objectif était de coordonner l'aide humanitaire dans l'est du pays. Il a été précisément question lors de cette rencontre d'échanger sur les accès aux zones occupées en vue de garantir les déplacements des humanitaires afin qu'ils puissent atteindre les populations vulnérables. La réouverture des aéroports de Goma et de Kavumu pour faciliter l'acheminement de l'aide, la reprise des activités bancaires pour assurer la continuité des services financiers dans les zones sous occupation. Le gouvernement souminois réaffirme enfin son engagement à renforcer son soutien aux partenaires humanitaires et à intensifier les actions pour répondre efficacement à la crise. Côté diplomatie, sachez que la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba Wagner, a reçu hier mercredi le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. C'était lors d'un briefing approfondi sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Au cours de cette rencontre, plusieurs points clés ont été abordés, notamment la mise en œuvre de la résolution 2773 et son impact sur la stabilisation de la région, la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi, les sanctions imposée par certains pays contre le Rwanda, les avancées diplomatiques en cours et les perspectives pour les prochaines échéances internationales. Thérèse Kayikwamba-Wagner a exprimé sa gratitude envers le corps diplomatique pour leur soutien indéfectible à la RDC en ces temps de crise, soulignant l'importance de la coopération internationale pour parvenir à une résolution durable des conflits. Et puis, notez cette déclaration de l'ambassadrice des États-Unis en RDC. Les récents enlèvements des patients dans les hôpitaux par le M23 montrent une fois de plus son mépris pour la paix dans l'est du Congo et son mépris pour la population de cette région. Il n'y a aucune excuse pour ces actes odieux. Les dénégations du M23 n'ont aucune crédibilité et il doit être tenu responsable de toutes les violations de droits humains, affirme sur son compte X Lucie Tamlin. Et de poursuivre, je cite, « Comme l'a clairement indiqué le secrétaire d'État Rubio à la présidence de la RD Congo, toutes les parties doivent accepter un cessez-le-feu immédiat et respecter la souveraineté du Congo. » Fin de citation. Les défenseurs de droits de l'homme courent des risques extrêmes de représailles pour leur travail en faveur de droits de l'homme à l'est de la RDC. Ce n'est pas nous qui le disons, mais un constat d'une experte des Nations Unies qui exprime sa préoccupation face à cette situation et dénonce en même temps ce fait. Dans un communiqué rendu public hier mercredi à Genève, Mère Willer-Lohr, rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs de droits de l'homme, appelle à l'aide immédiate, y compris un soutien pour une réinstallation temporaire de ces défenseurs et leurs familles. Sifa Maguru pour plus de détails.
Les défenseurs des droits de l'homme qui documentent et dénoncent les violations des droits de l'homme ont été directement visés par des rebelles du M23. La rapporteuse spéciale dit avoir reçu d'innombrables alertes demandant un soutien. J'ai parlé directement avec les défenseurs sur terrain, a souligné Madame Mary Lawlor. Ils vivent dans la peur et les risques sont réels, poursuit-elle. Dans ses rapports, l'experte des Nations Unies affirme avoir des informations crédibles, selon lesquels les défenseurs des droits de l'homme sont détenus en secret, sont portés disparus et torturés dans les Rutshuru, Masisi et dans les Nord Kivu, tandis que au moins 6 défenseurs sont portés disparus après avoir tenté de fuir la ville de Goma après la prise de la ville. En outre, depuis les évasions massives des prisons centrales de Goma, Kalehe, Bukavu et Uvira, des milliers de détenus, y compris des criminels violents et des chefs des groupes armés, condamnés pour des graves violations des droits de l'homme, se sont échappés. Certains d'entre eux menacent les défenseurs qui ont fourni assistance médicale, psychologique et juridique aux victimes et aux témoins qui ont déposé pendant les procès.
La rapporteuse spéciale rappelle la problématique des violences sexuelles et sexistes liées au conflit en RD Congo qui est endémique et que les femmes qui prennent position en payent le prix. Madame Lawlor appelle enfin la communauté internationale à reconnaître sa responsabilité collective à l'égard de ses défenseurs de droits de l'homme. Économiste, sachez que la Direction générale des douanes et accises dément formellement la mesure annoncée au sujet de la suspension du régime douanier de réimportation en l'état des marchandises provenant des zones occupées. Dans un communiqué officiel du 4 mars 2025, la Direction nationale de la DGDA informe tous les usagers de la douane que ce communiqué du 28 février est un faux et que la législation douanière s'applique sur l'ensemble du territoire national. Cependant, ces mêmes postes douaniers situés dans les zones occupées restent désactivés par l'Ouganda. Les opérateurs économiques expriment des inquiétudes pour pouvoir s'approvisionner en produits essentiels. Un expert du domaine propose au gouvernement de trouver des mesures palliatives et exceptionnelles pour soulager la population locale. Santé, c'est parti depuis hier mercredi avec la 4e édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite à Kinshasa. L'objectif général de cette édition est de réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et de ses partenaires à renforcer la vaccination de routine, à lutter contre la polio, contre la malnutrition et contre le cancer du col de l'utérus à travers une approche multisectorielle, inclusive et synergique. Malgré quelques avancées dans ce domaine, le système vaccinal congolais reste fragilisé. C'est ce qu'affirme le président de la République dans son mot d'ouverture de ses assises lues par le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kwamba, qui l'a représenté. On écoute cet extrait au micro de Stanislas Diumi.
Malgré ces avancées, notre système vaccinal reste fragilisé par des défis structurels et contextuels comme le manque d'infrastructures, les conflits et la désinformation. C'est pourquoi ce quatrième forum se tient sous le thème stratégique, l'immunisation, la nutrition et la lutte contre le cancer du col de l'utérus, car ces trois volets sont indissociables pour bâtir une société en bonne santé et garantir un avenir prospère à notre nation. Je veux que ce forum soit un tournant décisif. Les discussions et les recommandations doivent se traduire en actions tangibles, avec des résultats mesurables. Les engagements pris doivent se refléter dans le quotidien de nos populations. La vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective.
Un nouveau plan provincial de stratégie multisectorielle du secteur nutritionnel avec l'appui de l'UNICEF est en élaboration à Kisangani. Les services techniques de l'État, les partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, le CIFOR et Enabel, ainsi que la société civile, participent aux travaux y afférents depuis mercredi et vont s'achever demain vendredi. Qu'est-ce qui explique l'élaboration de ce document et quelle en est la finalité? Le point avec Jacques Mokonkole.
Plus ou moins 50 personnes participaient à cet atelier d'alignement du plan provincial stratégique du secteur nutritionnel dans la Tchopo. Selon le docteur Norbert Mosunga, coordonnateur du programme de coopération provinciale, ces assises de trois jours vont déboucher à l'élaboration d'un nouveau plan de lutte contre la malnutrition. L'ancien, produit lors des états généraux de l'agriculture et du programme de nutrition organisé à Kisangani en 2019, est devenu suranné. Il faut donc en élaborer un nouveau, adapté au modèle produit par Kinshasa. Le docteur Norbert Mosunga, chef de division provinciale du plan, en explique la finalité.
La finalité, c'est avoir un outil à mettre à la disposition de l'autorité politique au niveau de la province qui pourra servir de guide ou, si on peut dire, de boussole pour la lutte contre la malnutrition au niveau de la province, en vue d'arriver à réduire tant soit peu cette situation dramatique qui prévaut dans notre province.
Rappelons que selon les dernières enquêtes de 2023-2024, révélées par le ministère provincial du plan, 54% d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique dans la Tchopo, tandis que la malnutrition aiguë couvre une proportion de 25%. Actuellement, la situation s'est aggravée, déclare le chef de division provinciale du plan, Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Ouvira, confronté aux défis sécuritaires, Ouvira devra aussi désormais se battre contre le choléra. En effet, cette maladie est signalée dans la zone de santé de cette ville du Sud Kivu. Des cas sont répertoriés depuis Kamanyola, Luvungi, Sangé jusqu'à Ouviraville. Le CICR confirme l'information sans donner des détails. La coordination médicale de Médecins sans frontières dit avoir réuni ses équipes ce mercredi en vue de mettre en place des dispositions pratiques de riposte. Des femmes leaders à l'école du savoir depuis mardi et hier mercredi à Kinshasa, thème retenu, construire une démocratie inclusive et résiliente en RDC. Une trentaine d'anciennes et actuelles députées nationaux ont pris part à cet atelier de formation des femmes organisé par le bureau de la rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale avec l'appui de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Pendant les deux jours, les participants ont appris comment accroître le rôle des femmes leaders communautaires et comment élaborer des politiques qui répondent aux attentes de tous. On écoute l'initiatrice de cet atelier, la rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo. Elle est au micro de Michel Kifindangoy.
Durant deux jours, nous avions eu notre partenaire. Ça venait d'un besoin des femmes parlementaires, les nouvelles élues, et même les anciennes du reste, parce que nous sommes là avec quelques anciennes dames qui ont fait trois mandats, quatre mandats. Je peux les citer, Madame Anastasie Moleko, qui était ancienne ministre, Madame Loukiana. Elles ont été avec nous pendant ces deux jours. Nous avons besoin, nous, en tant que femmes politiques, surtout femmes parlementaires, de toujours apprendre, se mettre à niveau. C'est très important, c'est ça l'objet de cet atelier. Comment organiser, comment être leader en fait. Et aux nouvelles femmes parlementaires aussi, qu'elles comprennent que rien n'est jamais aisé. Vous avez eu la grâce déjà d'être élue, mais il faut maintenant toujours se former. Comment prendre la parole en public, comment agir, quel accoutrement avoir, quelle posture avoir. Et tous ces outils que nous avons eus pendant ces deux jours nous ont permis, je l'espère quand même pour certaines d'entre nous, de comprendre que la population attend beaucoup de nous et que nous-mêmes, nous avions pu acquérir coup de connaissance.
Actualité internationale.
Emmanuel Macron affirme que la menace russe est là et nous touche sans connaître de frontières. Il a prononcé hier mercredi une allocution pour sensibiliser les Français aux enjeux d'un monde sans cesse plus brutal où la Russie est une menace et où l'Europe n'est plus sûre de pouvoir compter sur les États-Unis.
L'invité.
L'invité de Radio Capi est Johan Borgstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Celui-ci revient sur sa quatrième visite effectuée en RDC en cette période marquée par l'amplification des violences dans la partie Est ainsi que sur la position de l'Union européenne face à la guerre d'agression dont est victime le pays de la part du Rwanda. Il répond aux questions de Rondly Ntimbonera.
Johan Borgstam, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré les autorités de Kigali et en même temps les autorités de la République démocratique du Congo autour de la crise actuelle. Quel serait aujourd'hui l'espoir que les peuples congolais devraient garder de votre passage dans ces deux États?
Le message très clair que j'ai pu passer aux autorités à Kigali, mais aussi ici à Kinshasa, ça a été un message très très clair par rapport à la volonté de l'Union européenne de fortement contribuer à une solution politique à ce conflit-ci. Il n'y a pas de solution militaire. Ça aussi a été une possibilité pour moi de souligner le fait que l'Union européenne constate que ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. J'ai communiqué aussi à Kigali en incluant à son excellence le président Paul Kagame qu'il faut absolument que les troupes rwandaises se replient, rentrent chez eux, qu'il faut absolument que le Rwanda coupe le soutien pour les M23. Et j'ai aussi souligné que, bien évidemment, il faut que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités par rapport à un démantèlement de FDLR. Il y a une forte, je dirais, mobilisation politique en Europe par rapport à ce qui se passe dans la région de Grand Lac. Il y a une forte solidarité, mais surtout avec la population congolaise dans l'Est de votre pays qui a tant souffert plus de 30 ans. Et surtout dans cette situation-ci, avec des centaines de milliers de déplacés internes les derniers mois. Et pour cela, j'ai aussi fait référence aux initiatives Union européenne par rapport à l'assistance.
Une question très simple et pratique. Pourquoi aujourd'hui l'Union européenne hésite à mettre un terme à sa collaboration sur les métaux précieux qui permettent aujourd'hui au Rwanda, selon certaines indiscrétions, d'attaquer la République démocratique du Congo?
Et je dirais pas qu'il y a une hésitation. Je dirais qu'il y a une discussion en cours. Il faut aussi retenir que ici, il s'agit de 27 États membres, des pays qui ont aussi ses propres priorités. Il y a aussi des aspects légaux et juridiques parce que cet protocole d'entente pour les matières critiques dont vous faites référence, c'est ce qu'on a et appelle compétence de la Commission européenne. Je tiens à souligner l'évolution, le développement des positions de l'Union européenne à travers ces derniers mois par rapport à ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre certaines personnalités impliquées dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi l'Union européenne n'emboîte pas les pas aux États-Unis?
La question, donc, sanctions à titre individuel. Donc, ce qu'on a fait le 24 février, lors de la réunion du Conseil, c'est qu'on a pris une décision politique de continuer les préparations pour établir une liste de certains individus. Et maintenant, ce sont nos collègues légaux au siège qui s'en occupent avec les préparations. Donc, entre dans les détails des rouages de l'Union européenne, effectivement.
Merci.
OK.
Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre fidélité. Merci aussi à Pelé Kipela Mondo, à Richard Junior Kamunga et à Mimi Kindou.